Alors, nouvelle semaine de découverte, découverte d'un univers. Nous allons parler de la Verrida, d'un vrai savoir-faire avec notre invité Marc Pignot qui est ici à la Verrida creusoise, qui nous reçoit au lieu dit Le Poteau. Nous sommes à Genouilla, en Creuse. Je crois que cet univers de la verrerie ne date pas d'hier pour vous. C'est une grande aventure, c'est l'aventure de votre vie.
Oui, c'est une aventure qui a commencé il y a bien longtemps puisque j'ai commencé ma formation, j'ai commencé le 1er octobre 1970. C'est un choix personnel, hein, c'est ce que j'avais décidé de faire. Et puis, il y a une opportunité qui s'est présentée. Donc, je me suis lancé dans cette branche.
Ça veut dire qu'il y a eu un premier contact avec le verre, il y a eu un déclic?
Le verre, je ne connaissais pas spécialement le verre. Je ne savais pas du tout ce que ça représentait comme travail. Non, c'était une découverte. Une découverte que l'on affine au fil des années, et puis après ça peut devenir une passion, hein, puisque quand on fait ça pendant, on exerce un métier pendant plus de 40 ans, donc je pense que quelque part il y a un petit peu de passion.
Alors ça veut dire qu'on se lance dans l'aventure, ça se passe comment? Une formation en région parisienne?
Non, moi j'ai fait une formation à Genouilla même, puisqu'il y avait quelqu'un, un maître verrier, donc mon apprentissage durait 3 ans, et quand ce laps de temps a été écoulé, donc après je suis allé travailler environ 3 ans dans la région parisienne, et là j'ai pu voir une autre facette du métier, puisque moi je travaille le verre d'une façon un petit peu particulière, donc c'est le travail au chalumeau ou à la flamme. On n'est pas très nombreux en France, on va cibler entre 150 et 200 entreprises, quoi. Ce qui est quand même peu au niveau national, quoi.
Et l'autre méthode qui est...
Oui, il y a mille et une façons de travailler le verre. Bon, moi, ça, c'est le travail à la flamme. Après, on peut travailler au four. Après, il y a le thermoformage, le fusing. C'est extrêmement, extrêmement varié.
Le public se rend compte du travail. C'est vrai que le verre, on en a forcément partout autour de nous.
Le verre est une matière qui s'est énormément démocratisée, on va dire. Ça fait partie des choses quotidiennes. On en voit tous les jours et partout, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la décoration. Enfin, il y en a partout. Certaines personnes sont très sensibles à l'artisanat.
Alors vous permettez de découvrir cet univers, parce qu'on peut venir visiter ici la Verrida creusoise. Vous sentez le public repartir avec un regard différent sur la matière verre?
Ah, il y a des gens qui restent relativement longtemps à l'atelier, qui s'intéressent à l'artisanat en général, du moins.
Et ça fait naître des vocations?
Actuellement, ce sont des métiers qui sont choisis, mais par passion. On ne va pas exercer un métier comme ça si on ne l'a pas vraiment choisi. C'est un métier relativement difficile, même si en apparence, ça paraît simple de fabriquer quelque chose. C'est quand même quelque chose de relativement difficile à maîtriser, donc ça, qui demande beaucoup d'années de pratique.
On va voir justement dans nos prochains rendez-vous comment vous travaillez concrètement. Pour terminer, les grandes qualités d'un artisan qui travaille le verre pour vous en 2-3 mots, 2-3 qualificatifs?
Bon, c'est surtout la patience. La patience et la persévérance. C'est 2 mots essentiels, quoi.
Qui ne vont pas vraiment avec la société d'aujourd'hui.
Et peut-être, mais il faut être patient et persévérer. Et puis, au départ, c'est plutôt la matière qui a plutôt tendance à commander, on va dire. Enfin, c'est elle qui décide, donc il faut arriver à essayer de la domestiquer. Donc ça, c'est beaucoup de patience et puis de persévérance, voilà, tout simplement.
Notre deuxième rendez-vous au sein de la Verrida creusoise, en compagnie de Marc Pignot. Nous sommes à quelques encablures de Genouilla, ici en Creuse, au lieu dit Le Poteau précisément. Et déjà, on rappelle, Marc Pignot, vous travaillez d'une façon particulière, travaille au chalumeau, travaille à la flamme. Un mot sur le matériel que nous avons devant nous et qu'on invite évidemment le public à venir découvrir.
Oh, le matériel est relativement simple et modeste, puisqu'on a simplement une source de chaleur, donc qui est le chalumeau, un chalumeau à tête tournante, donc sur lequel on peut adapter différentes bus selon ce que l'on a l'intention de fabriquer. Donc ça fonctionne tout simplement au gaz et à l'oxygène, avec des choix de bus différentes, bien sûr. Un certain nombre de brûleurs qui fonctionnent au gaz ou à l'air, ça c'est plus une habitude de travail que de nécessité, mais bon, ça rend d'énormes services. Après, il y a quelques pinces, des outils en graphite... Ça reste relativement simple comme matériel.
Le gaz, on le sent un peu, c'est du propane?
C'est du propane, oui. Propane et oxygène.
Alors, on parlera des différentes choses que vous faites. Matériel notamment de laboratoire. Il y a les objets de décoration qui sont tout autour de nous. Concrètement, là, imaginons que vous deviez attaquer une pièce. Quelles sont les différentes activités pour mettre un petit peu le travail en marche?
Alors, si je prends l'exemple là de ces pièces qui sont en cours de fabrication. C'est-à-dire, ça, c'est des réfrigérants matériels de labo. Avant là, on va être sur une phase terminale, là. Donc, pour faire une pièce comme ça, il y a plusieurs opérations.
Donc, c'est-à-dire que là, on parle de ce petit tube tout fin, en fait.
Alors, ça, c'est la méthode de travail que j'utilise dans le travail à la flamme. Donc, c'est une méthode de travail qui consiste à travailler soit des tubes de différents diamètres, des tubes ou des barres, bien sûr, hein, de différents diamètres. Ça va de 3 mm jusqu'à ce que la main est en mesure de faire.
Ça veut dire aussi qu'avec votre type de matériel, votre façon de fonctionner, on peut tout faire. Ça chauffe suffisamment, par exemple, par rapport à une technique de four ou autre.
Ah non, on est limité en dimension, puisqu'on peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas chauffer des grosses quantités de matière en même temps. Donc là, ça limite forcément le volume des pièces que l'on veut réaliser. C'est une méthode de travail qui permet d'être très précis. C'est un peu fait pour ça.
Pour terminer, on parlait de ce chalumeau avec les différentes buses. Donc là, il y a 5 buses autour, chacune ayant quelle utilité exactement ?
Eh ben, c'est en fonction de ce que l'on a à faire sur une pièce, par exemple, ou sur une pièce, on peut avoir besoin de sortes de flammes, par exemple, pour quand je vais finir cette partie-là. Bon, ben là, j'ai une partie un petit peu plus importante à chauffer, donc je choisis une flamme correspondante, de façon à avoir une surface de chauffe un petit peu plus importante. Et après, là, je vais avoir besoin pour faire ma soudure qui va être là, souder un rodage à cette partie-là. Donc, je vais avoir besoin de chauffer uniquement sur une partie beaucoup plus étroite. Donc, je vais prendre une flamme comme ceci, qui est une flamme, on appelle ça des flammes râteaux ou des rampes.
Hein. C'est tout en longueur, une espèce de petit peigne.
C'est plat, c'est comme un peigne, c'est un peigne, voilà, tout simplement, c'est un peigne, mais qui va chauffer sur une circonférence plus importante, si l'on veut, mais sur une largeur beaucoup plus étroite, qui permet d'être relativement précis pour faire une soudure, voilà.
Et la question toute bête, on chauffe avec la partie orangée ou la partie bleutée de la flamme ?
Là, ça va être une partie bleutée puisque c'est gaz et oxygène. Donc, on a une flamme bleue qui va chauffer énormément.
C'est pas la flamme de la gazinière de notre ménagère.
C'est pas la flamme de la bougie ni de la gazinière. Voilà, c'est pas ni du briquet. C'est pas tout à fait ça. Non, puisque là, il faut que je chauffe environ 1200-1220 degrés. Donc, c'est quand même une température relativement élevée, quoi.
Notre troisième rendez-vous, toujours installé ici en Creuse, à Genouilla. Nous sommes en compagnie de Marc Pignot. Nous sommes à la Verrerie d'Art creusoise. Nous découvrons cet univers du travail du verre. Marc, là, vous êtes en train de préparer une pièce, celle que l'on va finir ensemble, d'ailleurs, dans quelques instants. On va rappeler, on est sur cet instrument de laboratoire.
Oui, c'est un réfrigérant. Donc, c'est une pièce qui sert à faire de la distillation, si l'on veut. Donc, je vais finir le montage, c'est-à-dire je vais fermer cette partie-là, mettre un rodage, et puis une deuxième sortie pour la circulation d'eau. Hein.
Donc là, on va véritablement passer à la phase active. On chauffe. Voilà, la flamme. On a les doigts très très près de la flamme, hein, quand même. Hein.
En l'occurrence, là, oui, c'est relativement près. Oui.
Donc ça veut dire que c'est l'étape où le terme de souffleur de verre va prendre toute son importance, puisqu'on relie donc un tuyau flexible à la pièce que l'on va travailler.
Oui, ben là j'ai mon tuyau parce que il faut que je souffle dans deux parties en même temps.
Donc là, avec l'air, effectivement, on aide à façonner.
Et là, je souffle et j'ai soufflé. On voit bien l'air est dans l'autre partie intérieure. Et là, je vais faire un trou pour pouvoir souder mon rodage. Là, je vais faire la soudure du cône. Voilà, les connexions à eau et le rodage sont finis. Il ne reste plus qu'à réchauffer un petit peu avec une flamme différente. Et la pièce sera presque terminée.
On se rend compte que voilà, sur une même pièce, on coupe, on perce, on soude, on coude, et on peut vraiment tout faire. Le verre est vraiment un matériau que l'on peut travailler de mille et une façons avec la dextérité et l'expérience.
Ah ben bien sûr, oui, c'est quelque chose qui se prête à différentes méthodes de travail. Bien sûr, on peut faire énormément de choses avec un morceau de verre.
Il y a verre et verre ou c'est exactement le même matériel de base ?
Bien sûr, il y a des centaines de verres différents. Ça, c'est un verre particulier. particulier, c'est un verre qui est prévu pour être travaillé de cette façon-là. C'est un verre qui doit résister à des variations de température relativement importantes. C'est un verre qui est conçu pour faire du matériel de labo. Donc il faut que ça puisse, comme c'est des choses qui vont être utilisées, il y a des pièces qui vont être chaudes, qui vont chauffer, qui vont refroidir plus ou moins vite. Donc il faut que ça puisse résister à des variations de température très différentes. Donc, mais ça, c'est un verre qui permet ce genre de choses. Voilà.
Et ça veut dire que ce verre que vous avez travaillé, il est un peu fragilisé ou il est tout aussi solide qu'à l'état brut avant qu'il soit chauffé et travaillé par vos soins?
Alors là, tel qu'il est là, c'est pas une pièce qui est terminée. C'est pas une pièce homogène, on va dire. C'est une pièce qui sera homogène quand la cuisson aura été faite. Donc, c'est-à-dire, la cuisson, ça consiste tout simplement à lorsque les pièces sont terminées, on les met dans le four, on les chauffe à une certaine température qui va varier entre 560 et 565 degrés, en l'occurrence, à environ, Et là, une fois que la cuisson sera faite, que le refroidissement sera fait, toute la pièce sera homogène, donc c'est une pièce qui sera pas plus solide, mais qui sera aux normes, on va dire, voilà.
Et justement, le four, pour terminer, four électrique?
Four électrique, bien sûr. Il y a de très grandes possibilités de moduler tout ça. Donc, c'est relativement précis à 1 ou 2 degrés près. C'est précis à ce niveau-là. Oui.
Ça veut dire que vous qui avez 40 ans d'expérience, les choses ont bien évolué de ce côté-là, vous ont un peu facilité la vie?
Ah bah oui, ça, c'est un four qui est assez... puisque c'est des fours qui fonctionnent avec microprocesseurs, donc il suffit de la programmation souhaitée. Et puis après, ça se fait tout seul. Et effectivement, c'est très facile d'utilisation, on va dire. Voilà.
Notre quatrième rendez-vous, toujours en Creuse, que nous passons cette semaine à la Verrerie d'Arc Creusoise avec Marc Pignot, qui est un artisan souffleur de verre, un artisan d'art. Ce sont des dénominations données par la Chambre des métiers pour qualifier cette profession. Il faut qu'on parle de la couleur parce que c'est quelque chose d'intéressant. Au départ, quand vous avez commencé, vous, il y a 40 ans, le verre en couleur, ça n'existait absolument pas.
C'est ce verre-là, le verre que je travaille, qui n'existait pas en couleur, ou très peu. On avait deux couleurs, je crois. Peut-être un petit peu de bleu, mais ça, c'était des consommations très extrêmement marginales. Donc, moi, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, j'ai cherché, j'ai essayé de fabriquer un certain nombre de couleurs. Et au bout de maintes essais, j'ai quand même réussi à sélectionner 3 ou 4 couleurs.
Donc, alors, on fabrique vraiment sa couleur. C'est-à-dire qu'on va partir de cette tige de verre qu'on a là sous les yeux, qui est une tige totalement blanche.
Une tige transparente, oui, du verre transparent. Donc, je vais prendre des petites barres de verre de environ 6 mm de diamètre, de 6 à 8 en réalité, sur lesquels je vais appliquer mes oxydes ou mes carbonates de métaux.
Voilà. Une espèce de pâte, de peinture,
oui,
si on veut.
Une poudre qui est diluée avec un petit peu d'eau, de façon à la faire adhérer sur le verre. Et lorsque cette opération est faite, je vais chauffer, mais là énormément, puisque le but du jeu, c'est de fondre le verre et les oxydes en même temps et de mélanger tout ça. Et ma tige de verre, je vais en refaire une boule. Et lorsque tout ça est prêt, ma boule est bien chaude, bien molle, je vais étirer de à peu près, je refais une baguette de 4-5 mm de diamètre. Et là, ma couleur est prête à être utilisée. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que là, la couleur est vraiment dans le verre. Donc ça veut dire que là, vous avez créé vos couleurs. Combien de couleurs maintenant sur votre palette pour ensuite passer à la phase créative?
Bon, ben là, j'ai 4 couleurs, du bleu, du jaune, du vert et du marron. Ça, c'est ce que j'ai fabriqué il y a déjà bien longtemps. Donc, c'est mes couleurs de base, mais qui vont me permettre d'obtenir des choses tout à fait différentes selon comment elles vont être employées par la suite.
Alors, on va passer à la phase concrète de l'utilisation de cette couleur. On va s'équiper, parce que quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans nos précédents rendez-vous, c'est que ce que le grand public peut voir lorsque l'on vient ici, lorsqu'on vous regarde travailler le verre avec la flamme, c'est pas du tout la vision que vous avez de votre travail. On a l'impression que c'est impossible d'être aussi précis que vous l'êtes, mais il y a une explication à ça, c'est les lunettes que vous portez.
Ah oui, effectivement, oui, moi j'ai des verres de protection. Si vous n'avez pas de verres de protection, vous voyez, il y a un rayonnement de orangé, jaune orangé, qui est des rayonnements de sodium, et donc là effectivement on ne voit rien, on voit pas de choses précises, on ne peut pas voir de, alors que les lunettes de protection, effectivement, on ne voit pas tous ces rayonnements, on voit que la flamme bleue et le verre qui rougit, tout simplement. Donc on a une approche tout à fait différente, quoi, une perception des choses très précise, quoi, voilà.
Bon, destination, c'est entrer dans les coulisses. Alors, je vais m'équiper moi aussi des mêmes verres que vous. Donc, on s'installe.
On s'installe.
Alors là, on a devant nous, on va dire un œuf dans lequel est inclus ces mélanges de couleurs qui proviennent de ces baguettes.
Voilà, je pense que j'ai à peu près tout sous la main. Là.
Il en faut quand même du matériel pour ce petit objet qui ne paye pas de mine. Et on démarre donc le chalumeau. On l'entend bien. Donc là, on va être vraiment à des très hautes températures. Je suis équipé des lunettes. Je vais donc découvrir véritablement l'intérieur de ce travail du verre.
Alors là, je vais commencer l'assemblage de mes couleurs, mais une à une.
On chauffe la couleur et on l'étale sur la tige, elle, transparente.
Oui, j'ai un petit support de base, mais qui est tout petit, hein, puisque c'est lui qui me permet de juxtaposer mes couleurs les unes à côté des autres.
La particularité, c'est qu'évidemment, quand ça chauffe, tout devient orangé, donc on ne reconnaît plus les couleurs.
On distingue rien du tout, donc c'est par refroidissement qu'on aura une perception des choses plus nettes.
Effectivement, ce qui est très impressionnant, c'est que quand on regarde avec ses lunettes, on voit les tiges à travers la flamme. Si on passe au-dessus des lunettes, on ne voit plus, absolument plus rien. On a la flamme orangée, on ne voit absolument pas le travail qui est réalisé.
Vous avez beaucoup plus de détails comme ça. Hein. Donc là, j'ai juxtaposé un certain nombre de couleurs les unes à côté des autres.
Donc là, on fait un berlingot, en quelque sorte, ça prend cette forme-là.
C'est un berlingot multicolore, pour l'instant. Hein. Qui fait quoi, 3 cm de long et puis... pour l'instant, et quoi, 10-12 mm de diamètre.
Et en degrés ?
Et en degrés, là, 1200.
1200 degrés, je vous déconseille de le toucher à ce moment-là. Là, on va y rajouter les petits cristaux de verre.
Des petits morceaux de verre concassés, mais...
Et donc là, on passe à la coque.
Là, maintenant, je vais remettre par-dessus tout ça une couche de verre transparent.
Pour au final avoir cet œuf transparent et cette couleur... incluse à l'intérieur. On va vous laisser terminer de recouvrir tout ça. On va se retrouver dans le dernier épisode pour découvrir le résultat terminé et puis finir ce rendez-vous avec encore quelques éléments dans cet univers du verre ensemble. Et notre dernier rendez-vous, ici installé à Genouillat en Creuse, à la Verrerie d'Art creusoise, précisément en compagnie de Marc Pignot, qui est en train de travailler le verre. Hein, on le quittait dans le précédent rendez-vous. En train de confectionner cet œuf, on va dire transparent, incluant différentes couleurs. On a expliqué les différentes étapes. Là, on termine de le recouvrir. C'est du travail. On peut avoir l'impression que c'est très rapide. On coule la coque rapidement par-dessus. Non, on prend le temps de recouvrir de façon très précise l'intégralité de la pièce.
Ça ne peut pas être rapide. Il faut que j'en mette suffisamment pour que l'effet soit souhaité, soit là. Et il faut aussi que je fasse très attention de ne pas trop chauffer, de façon à conserver aussi mes couleurs comme je les ai mises. Il ne faut pas que je mélange tout ça.
On se rend compte que pour faire cet œuf, il y a quasiment une baguette qui passe. Hein. C'est quand même une quantité de verre assez importante.
Oui, mais là, il n'est pas très gros. Oui, il faut un petit peu de matière. Et là, j'ai fini mon doublage, donc là, je vais chauffer beaucoup de façon à donner la forme à ma pièce. Que je vais faire avec une plaque graphitée, puisque en principe je ne procède pas tout à fait de cette façon-là.
On peut avoir l'impression que voilà, il y avait un moule pour donner cette forme d'œuf. Pas du tout, c'est vraiment le travail de la rotation entre les doigts, c'est vraiment assez incroyable à voir.
Simplement un travail de rotation, oui, pour maintenir la matière en fusion. Hein. C'est le même principe que la pâte à modeler, sauf que là, interdit de mettre les doigts. Alors là, ma pièce va être pratiquement terminée. Donc là, je laisse refroidir un tout petit peu, de façon à pouvoir le tenir avec les pinces sans que ça fasse de traces. Et les couleurs commencent à apparaître, là.
Là, on a un refroidissement. L'orange s'atténue pour laisser passer et apparaître les couleurs.
C'est encore un petit peu chaud. Là, on voit pas tout. Hein.
On n'a plus notre rouge, en tout cas, qui, lui, n'apparaîtra qu'à la cuisson au four.
Voilà, tout à fait. Oui. Le rouge s'affirmera à la cuisson. Et voilà, ma pièce est terminée. Donc, en règle générale, ce genre de pièce, c'est une fois que c'est fabriqué, c'est cuit tout de suite, immédiatement, c'est mis dans le four à 300-400 degrés. On a beaucoup de... Il y a un mélange relativement important de couleurs, donc ça fait beaucoup de tension. Il faut absolument, techniquement, il faut absolument les mettre à cuire au fur et à mesure.
Et combien de temps de cuisson pour, au final, avoir la pièce définitive ?
Une cuisson classique, je mets environ 1h45 à 2h pour monter à 565 degrés. Après, je fais un palier qui varie entre une demi-heure et 45 minutes. Et après, c'est le refroidissement. Bon, ça, le tout, ça demande une vingtaine d'heures à peu près.
On peut faire aussi, je vois par exemple là, une question toute bête. On a un bougeoir qui a perdu une de ses branches à la maison. Si ça nous arrive, hein, on a tous cassé un objet en verre. On va sortir le pot de colle super glue. C'est quelque chose qui vous hérisse le poil.
Oui, effectivement, la glue, ça m'énerve un petit peu. Mais non, en règle générale, une pièce en verre qui est cassée ne se répare pas. Donc, on peut réparer des choses en verre que lorsqu'il s'agit d'un verre bien particulier. Il y a des verres qui ne sont pas du tout conçus pour être retravaillés. Si on se permet de les réchauffer, eh ben, on court la catastrophe, on va tout éclater. Donc, il faut que ce soit quelque chose de bien particulier, qui corresponde à un verre à faible coefficient de dilatation, qui va pouvoir se, comme celui-ci, qui va pouvoir être retravaillé un certain nombre de fois. Mais bon, une réparation, ça laisse toujours un petit peu de traces, hein, bien sûr.
Pour terminer, Marc Pignot, après 40 ans d'expérience dans cet univers-là, on se lasse jamais. On l'a vu là, vous êtes amusé presque comme un gamin à faire cette pièce-là, à laisser libre cours à votre avec créativité.
Ce genre de métier, si on n'est pas un petit peu passionné, je crois qu'on n'arrive pas à le faire, quoi. Enfin, ce sont des métiers trop exigeants, quand même. Après, si on s'intéresse un petit peu à l'artisanat, il y a plein de choses à voir, quoi. Et comme je travaille pratiquement tous les jours, donc les gens peuvent assister à un certain nombre de choses. Disons que je travaille tout le temps, voilà. Donc on peut assister à différentes facettes de la fabrication.
Et puis quand les températures vont avoir bien baissé, vous ouvrez les portes, c'est chauffage gratuit pour tout le monde.
Chauffage gratuit, tout le monde est au chaud.